Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Ariane Moret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du théâtre du Jorat à Mézières. Je suis venu vous rendre visite parce que ce bâtiment historique, ce fleuron de la culture romande a vécu une rénovation importante. On va évidemment en parler. Vous êtes directrice depuis un peu plus de deux ans maintenant. Co-directrice d'abord, puis directrice toute seule. Voilà. Et donc, vous êtes arrivée avec, entre les mains, une espèce de monstre de chantier. On vous avait averti avant.
On m'avait averti, oui. Mais le chantier n'avait pas encore commencé.
Oui,
on n'avait même pas encore lancé la levée de fonds pour financer le chantier. Donc voilà, j'ai eu la chance, le plaisir et d'accompagner tout le processus. Enfin, la finalité de ce processus, puisque c'est la réalisation, on va dire, finale, puisque c'est un processus qui remonte à longtemps comme vous le savez.
Bah oui, c'est un gros chantier, hein. Je crois que c'est une dizaine de millions de francs, c'est vraiment sur un bâtiment classé monument historique, on parlera des contraintes, forcément ça prend du temps, il faut réunir l'argent et puis après on construit pas en trois jours. Vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène, vous avez aussi écrit des choses, comment vous êtes entrée dans ce monde-là, quel est votre souvenir le plus ancien qui vous a dit à un moment donné, la lumière dans la figure et un public de devant moi, ça me plaît.
Ce sont mes parents qui m'ont inscrit à un cours de théâtre pour enfants quand j'avais 7 ans. Et puis, je n'ai jamais arrêté depuis. Je crois que pour moi, ça a été la découverte d'un monde qui me plaisait beaucoup. Cette possibilité de pouvoir raconter des histoires en étant quelqu'un d'autre ou soi-même en arrière-fond, ça me correspondait bien. Je me déguisais déjà enfant, j'aimais me téléporter dans un univers de fiction et d'invention théâtrale.
Je parle souvent avec des gens du spectacle au sens large, hein, évidemment dans notre petite Suisse romande, c'est toujours difficile. Déjà, il faut aller se former ailleurs, hein, souvent, ça a été votre cas, vous êtes allé faire ça dans une école prestigieuse en Belgique. Et puis, il faut ensuite trouver son chemin, sa vie dans un milieu petit, la Suisse romande, ou s'expatrier. Il y a un moment clé où on se dit, je vais réussir à en faire mon métier, ou ça aurait été une passion comme pour moi. Le ski est une passion, mais pas un métier, vous voyez.
Je pense que c'est une mise à l'épreuve de l'envie qu'on a de faire ce métier, parce que c'est vrai que les contingences extérieures, elles sont rudes. Il faut avoir de la chance, ça dépend des rencontres qu'on fait, des opportunités qui se présentent, être là au bon moment. Il y a une grande part de travail, naturellement, de talent, mais tout ça, ça se travaille et c'est incontrôlable. Donc on ne peut pas dire, voilà, mon plan, c'est ça, je vais faire ça. On peut le faire jusqu'à un certain point. Voilà, je vais essayer d'entrer dans cette école, cette formation. À l'issue de cette formation, je vais essayer de faire des stages ou participer à des opportunités de rencontre pour élargir mon réseau et aussi pour continuer à avancer. Et de là, à partir de là, c'est l'aventure.
Et puis, quand on arrive à diriger un théâtre comme vous, on se dit, j'ai eu des rencontres qui m'ont donné des chances. Aujourd'hui, c'est moi qui peux donner des chances.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Et puis, c'est aussi l'opportunité de pouvoir mettre en jeu, c'est le cas de le dire, tout ce que j'ai pu acquérir durant ce parcours hybride, multiculturel, on va dire aussi, puisque j'ai évolué et en France et en Belgique, tout en restant relié à la Suisse. Donc c'est toute cette expérience et tous les contacts que j'ai eu au fil de ce parcours que dont je peux faire bénéficier le théâtre du Jorat.
On dit mon théâtre.
Non, j'ai pas envie. Non, c'est le théâtre du Jorat.
Le cliché, hein, cliché du directeur théâtre. Mon théâtre, venez dans mon théâtre. Vous n'avez pas cette emphase dans la voix. Vous avez une voix très douce. Je ne sais pas si vous faites attention à votre voix et que vous êtes capable de réveiller une salle en poussant des cris. J'imagine que oui, c'est votre métier. Mais vous n'avez pas cette attitude un peu extravertie que je vous ai vu en plusieurs interviews. Puis ça se confirme avec notre discussion maintenant. Mm-hmm. Vous n'êtes pas une actrice cliché.
Vous savez, les acteurs, les actrices, ils sont des personnalités, des personnes un peu atypiques. Enfin, on l'est tous, hein, de toute façon. Mais par bon nombre d'elles, et d'entre elles et d'entre eux sont timides, je dirais, peuvent l'être. Et donc c'est l'espace scénique qui fait qu'une fois qu'on est sous les feux de la rampe, qu'on est en jeu avec les mots de quelqu'un d'autre, que tout d'un coup il y a quelque chose qui se déplace et qui fait qu'on est dans une autre dimension.
On connaît bien ça à la radio aussi. Hein. Enfin, tous les métiers de parole, il y a sûrement une bonne partie de métiers thérapie dans chacun d'eux. Hein.
Oui, tout à fait. Donc certaines sont très expansifs aussi dans la vie. Ça ne veut pas dire que...
Enfin, ouais, vous êtes timide, je suis timide, on va essayer de se forcer un petit peu et puis on va mener à bien cette interview.
Je ne suis pas tellement timide, je crois, vous savez, je suis plutôt peut-être réservée, je ne sais pas.
Oui, c'est un joli mot. Bon, vous disiez mettre en jeu tout à l'heure, hein, quand vous parliez du théâtre. Le jeu, pour vous, c'est souvent une question que je pose à des gens qui atteignent un poste de responsabilité, hein, quel que soit le métier, où c'est bien, c'est cool, mais en même temps, on perd une partie de la passion de base, c'est-à-dire, en ce qui vous concerne, être sur scène. Je ne sais pas si vous pouvez encore jouer, être actrice, mettre en scène.
Alors, on ne la perd pas, la passion de base. Moi, je ne la perds pas. En tout cas, je reste toujours...
Non, alors la passion, j'en doute pas, mais le plaisir peut-être d'être sur scène, si vous pouvez encore l'être ou pas.
Oui, pour l'instant, pas. Mais vous savez, on ne sait jamais ce dont demain sera fait. Pour l'instant, pas, parce que depuis que je suis entrée ici au Théâtre du Jorat, il y a ce projet de restauration qui mobilise beaucoup de temps et de force supplémentaire par rapport à... Voilà, à la conduite d'un lieu culturel. Donc on verra.
Vous avez délaissé le costume de scène pour le costume de charpentier, quoi.
Voilà. Mais ce qui ne m'a pas empêché aussi de dans ma première année ici au théâtre de pouvoir présenter une mise en scène qu'on avait avec ma compagnie créée pendant le Covid et qui a été dangereuse, coécrit avec Anna Lietti, qu'on a donné ici au Théâtre du Jura, mais aussi dans d'autres théâtres de Suisse romande. Et c'était un joli moment de pouvoir être relié avec l'équipe du théâtre au niveau artistique aussi.
La compagnie, c'est Bilbao Théâtre.
C'est ça, oui.
Alors, Bilbao Théâtre, j'ai regardé, c'est une compagnie toujours active, hein. En tout cas, sur votre CV en ligne, c'est aujourd'hui, la date limite, donc a priori toujours active. Bilbao, c'est Bilbao Song, c'est Brecht et Kurzweil. Et alors, on va parler de ce bâtiment du Théâtre du Jura, né au tout début du 20e siècle, mais avec une première floraison, on va dire, dans les années 20. On est dans les mêmes années, un peu dans le même état d'esprit aussi. De quelque chose d'à la fois intellectuel et populaire. Y a un lien là entre Brecht, Weil et Jorat.
Oui, c'est vrai.
S'ils sont pas venus.
Mais vous avez raison. Et d'ailleurs, la seule fois que j'ai joué sur le plateau du théâtre, c'était dans l'opéra de Katsu de Brecht et Weil, monté par Johann Mompart. Donc, vous voyez, vous y êtes. Oui, c'est vrai. C'est un théâtre dont le fondateur René Morax son projet artistique était de créer un théâtre populaire, de s'adresser au plus large possible, à la plus large
audience.
Merci. Mais tout en lui présentant des œuvres quand même assez élaborées. Il a travaillé avec des grands compositeurs et ça, avec une musique qui était parfois pas toujours
la plus accessible, la plus fête champêtre de village. Arthur Honegger, hein, qui a créé son roi David ici. Donc c'était à la fois l'exigence, et c'était vraiment dans l'air du temps à l'époque. Hein. Il y avait les expériences du Théâtre National Populaire de Jean Villard. Il y a eu Jacques Copeau aussi qui est venu. D'ailleurs, tiens, on va tout de suite parler de cette affaire de Grange Sublime, parce que le Théâtre du Jura, c'est donc un immense bâtiment qui respecte les codes campagnards. Hein. C'est une ferme, une immense ferme, avec à l'intérieur un théâtre de 1000 places, qui a été nommé la Grange Sublime.
Voilà,
parce que moi j'ai deux histoires.
Ah.
Ah oui.
D'accord.
J'ai fait des recherches, j'ai deux histoires.
Ah. Alors moi je n'en connais qu'une. C'était donc un conseiller fédéral, Tchoudi, dans les années 60.
Hans-Peter Tschudi.
Voilà, qui est venu ici et qui a dit, mais c'est une grange sublime.
Alors moi, j'ai l'histoire de Jacques Copeau, qui était donc un homme de théâtre, dramaturge en France voisine, hein, où Gilles d'ailleurs a fait ses armes, Jean Villargile, le chansonnier suisse, vaudois, et qui dans une correspondance aurait dit, je suis venu à la grange sublime.
D'accord.
Donc pour vous, c'est la version Conseil fédéral ? C'est celle qui est sur votre site. Hein, donc,
oui, ouais. c'est celle que nous connaissons, mais je vais...
Il faut faire des recherches.
Voilà, exactement, merci.
Non, tout ça pour dire qu'on est dans un endroit qui a été créé dans une idée de, on met le théâtre proche des gens, on le sort des villes, on le sort des milieux bourgeois, intellectuels, et peut-être un petit peu poète-poète, et puis on va, voilà. Mais c'est vrai qu'on pouvait le faire avec des roulottes, et puis là, il y a quand même une autre ambition, hein, qui est l'aventure, cette incroyable ferme.
Voilà, c'était un projet un peu fou, on peut quand même le dire. Hein, pour ce théâtre est né en 1908. Hein, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de concurrence au niveau culturel qu'aujourd'hui. Le théâtre était moins développé. Mais voilà, les gens, il était fédérateur, ce lieu. Les gens faisaient le déplacement, venaient de loin. D'ailleurs, il y avait la ligne de tram. Lausanne-Moudon qui transportait beaucoup de monde. Ouais, et quand on voit les photos du début du siècle passé, c'est assez étonnant. Hein, c'est magnifique.
Moi, alors je me disais, j'y suis venu quand j'étais jeune, mais je me souvenais plus bien. On est à une demi-heure hein, de notre Chablais, donc on est tout près de Lausanne. Mmh. On est quand même dans une version assez centrale de la Suisse romande. Mmh. Et puis on est dans ce début du XXe siècle, dans une ébullition culturelle en Suisse romande qui est incroyable. On est sous le patronage de Ramu, bien sûr, mais il y en a plein d'autres, dont fait partie Morax d'ailleurs, hein, René Morax qui écrit, qui est un dramaturge. Donc on est dans un moment important pour la culture romande. Il faut maintenir cet héritage-là, c'est dur.
Ah oui, bah on essaye de continuer à le faire vivre tout en le déclinant par rapport à notre époque. Et théâtre populaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours, parce qu'il y a autant de manières de l'envisager. Pour moi, un théâtre populaire, c'est un théâtre qui fédère, mais qui, peut-être à la manière de Jean Villard aussi, qui non pas qui éduque, mais enfin quand même qui nourrit, qui questionne, qui interroge notre époque,
qui
divertit tout en éveillant les consciences.
C'est l'idée de départ, en tout cas, de ce théâtre dont on va parler. On va parler de sa rénovation, hein, qui a été un gros dossier pour vous, on l'a compris. Et puis, de cette saison, on est déjà à la moitié de la saison, parce que c'est que l'été, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. À tout de suite.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Ariane Moret, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes la directrice de ce théâtre du Jorat qui est devant nous, cette grange sublime. 1000 places, hein, c'est fou. Il n'y en a pas 36 en Suisse romande, hein, des salles avec autant de places.
Non, c'est sûr que le théâtre du Jorat, c'est le plus grand théâtre de Suisse romande. Après, on passe dans la catégorie des salles, comme la salle Métropole ou le Palais de Beaulieu. Mais ce ne sont pas des théâtres en soi, dans le sens où il n'y a pas de création qui ont lieu.
Il y a une fosse d'orchestre ?
Il y a une fosse d'orchestre, oui, qu'on peut faire apparaître ou disparaître.
Donc on peut y jouer jusqu'à de l'opéra, j'imagine. Hein. Vous avez cité l'opéra de Katsu tout à l'heure, qui a été donné ici il y a quelques années. Oui. Rénovation, on en parlait, hein, 1908, on est à 115 ans, si je calcule bien, d'existence pour ce... 117 ans maintenant, on est en 2025, mais c'était 115 ans au moment des travaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est vraiment une charpente, c'est que du bois. Quelle était la nécessité et puis quelle a été ensuite la réalisation ?
D'abord, il y avait une nécessité de rééquilibrer le théâtre parce qu'il y avait un problème de staticité. C'est vrai que ce théâtre n'était pas appelé à durer si longtemps. D'ailleurs, son créateur avait imaginé, en cas d'insuccès, de le faire...
Qui pouvait être éphémère et qu'on pouvait réutiliser le bois, quoi, c'est ça ?
Voilà. Le démonter et revendre le bois et les tuiles. Il avait d'ailleurs passé un contrat avec un charpentier.
Ah, c'est dingue. Hein.
Ouais. Donc ce théâtre est toujours là, mais voilà, il était plus très stable. Donc l'annexe, il y avait un bâtiment à l'arrière du théâtre qui avait été construit après coup, qui n'était pas fonctionnel, pas très fonctionnel, a été démoli et on l'a reconstruit sur des fondements en béton de manière à, voilà, à stabiliser, à pouvoir introduire aussi une chaudière au sous-sol, des toilettes pour les spectateurs. Et ce bâtiment a été reconstruit de manière plus large, avec deux étages. Et puis c'est la première fois dans l'histoire de ce théâtre que les bureaux, la partie administrative du théâtre, est associée avec la partie artistique, les travailleurs de la scène. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour la vie d'un théâtre.
Alors, il y a une modernisation évidente. Hein. J'ai vu du béton, j'ai vu un ascenseur incroyable, ouais. Mais alors qui ne touche pas du tout l'ensemble visuel, hein, de ce théâtre qui est classé monument historique. Vous ne pouviez pas faire n'importe quoi.
Non, non, absolument. La salle est intouchée, hein. Elle est juste magnifique. Et la restauration a porté aussi sur la cage de scène, l'espace scénique à proprement parler, là où on crée, où on installe le dispositif pour le spectacle ou le concert. Et la charpente a été consolidée, la sécurité en hauteur pour les techniciennes et techniciens a été revue, améliorée. Et puis l'équipement scénique aussi a été remplacé. On avait jusqu'à maintenant des perches qui étaient actionnées par des poulies et des cordes, et aujourd'hui on a un équipement motorisé, voilà. Ce qui va nous permettre d'accueillir des spectacles plus pointus, plus exigeants.
Plus de rapidité sont nécessaires, etc.
Voilà, ouais.
Mais vous avez tué l'artisanat et vous êtes entré dans la modernité. Bravo madame. Bon, un objet professionnel qu'il était déjà avant, hein, évidemment,
oui,
avec les contraintes de l'époque. Il n'y avait pas de mécanisation, il n'y avait pas d'informatique, mais il faut évidemment vivre avec son temps et son époque. Il y a eu de tout. J'ai regardé un petit peu. Voilà, il y a eu Woolsey, il y a eu Michel Corbeau avec des œuvres de musique classique très pointues. Il y a eu donc de l'opéra, du théâtre, de l'humour. Enfin, c'est vraiment une salle qui se prête à tout. À tout ce qui peut attirer du monde quand même, hein, parce qu'il faut remplir une salle comme ça.
Absolument, à tout, presque tout, je dirais. Bon, ce qui est trop intime, ça passe pas,
oui, voilà,
hein,
ouais.
Évidemment. Et puis cette salle, elle a aussi, ouais, elle est assez profonde, donc il faut aussi choisir des formes, des grandes formes ou des petites formes. Parfois un seul en scène passe, hein, ça dépend du projet en soi, mais il faut qu'il y ait quelque chose de qui frappe fort dans la salle. Je ne sais pas comment dire, qu'il y ait une immédiateté dans le contact scène-salle pour que ça marche.
Mmh. Aujourd'hui, votre spectre, il reste large comme cela, du stand-up, donc de l'humour jusqu'au théâtre, en passant par la musique, la chanson.
Oui, alors je n'exclus rien. Je viens du théâtre, donc c'est là un peu où je... C'est un peu la forme dominante qui est au programme, mais non, je n'exclus rien. Je trouve, ben, aujourd'hui, tout communique, le monde du théâtre est large, hein, la forme pluridisciplinaire maintenant, on la retrouve dans quasi tout, et c'est ça qui est intéressant. Mais cet éclectisme n'est pas forcément synonyme de dispersion. J'essaye aussi de trouver une ligne, de raconter de tout ce qui est proposé dans la saison fait sens. Il y a un équilibre. Et cette année, le thème qui traverse cette saison, c'est le thème de la différence, de nos différences. Ce qui nous sépare, ce qui nous rassemble, ce qui nous pose problème, ce qui nous questionne, notre rapport à l'autre, aux autres, etc.
Je disais tout à l'heure, on est à la moitié de la saison, hein, c'est bizarre. On se rend compte, nous, au mois d'août. L'émission va être diffusée aussi assez rapidement dans cette fin du mois d'août. C'est un théâtre, c'est une maison qui ne fonctionne que l'été. Enfin, en tout cas, printemps, automne, quoi.
Oui, c'est aussi une particularité de ce théâtre qui n'est pas isolé. On aurait beaucoup de mal à l'isoler pour le chauffer. C'est vrai qu'à certains endroits de la salle, on voit un peu de jour entre deux lattes de bois, ouais. Vous voyez, donc... voilà, il laisse passer la chaleur. Il y a des soirées qui sont assez torrides, je dirais. Vous voyez, comme sous dans un grenier.
Dans un chapiteau,
mais
par
oui,
exemple.
Mais oui, tout à fait. Et puis parfois, on a vraiment froid. On doit garder sa veste ou son manteau à l'automne, ou même parfois.
Mais parfois, on se sent bien quand même.
Mais oui.
La plupart
mais surtout,
du temps.
On se sent bien ensemble, ouais. Parce qu'il y a ces grands bancs qui jalonnent la salle, et puis ça génère aussi une proximité au sein du public qui une chaleur qu'il n'y a pas peut-être dans d'autres salles.
On ferme la porte, là c'est jusqu'au début du mois d'octobre, hein, la saison. Mm-hmm. Ensuite on ferme, on rouvre en mois de mai, c'est comme ça, ou il y a quand même des choses qui se passent pendant
non,
la saison?
Non, il n'y a plus rien. On ferme la porte, on le démonte intégralement, c'est-à-dire qu'on enlève tous les projecteurs, tout le matériel technique. Ah oui, parce que...
Le gel possible,
voilà,
etc.
Ah, voilà,
c'est fou.
Les températures vont varier, vont chuter, on coupe l'eau. C'est comme un grand chalet. Ouais. On enlève tous les coussins,
on
aspire.
Met du foin, on fait entrer des vaches et puis...
mais vous rigolez, mais à la fonte des neiges, quand on le rouvre à la fin de l'hiver, on trouve parfois des crottes d'animaux.
Qui sont venus se réfugier.
Voilà.
Ouais.
Bon, de moins en moins, parce qu'il a été justement bien colmaté partout. Mmh. Mais,
Alors, vous m'aviez donné un flyer là, pour la fin de saison, puis je l'ai oublié parce qu'on s'est déplacé. Là, on est donc au mi-temps du mois d'août. Il va y avoir samedi hein, un prochain spectacle, c'est du ciné-concert,
voilà.
Buster Keaton.
Mm-hmm. Le mécano de la générale sur grand écran, mis en musique par Martin Pring et dirigé par Valentin Raymond et l'orchestre des Jardins musicaux de Cernier.
Voilà, donc on parlait de la possibilité d'orchestre et puis de la sonorité. Il paraît qu'il y a une acoustique assez dingue. Dans
oui,
cette
salle. C'est vrai. C'est une caisse de résonance magnifique, cette grange en bois d'épicéa.
Et puis la saison se décline donc jusqu'au début du mois d'octobre. On va pas décliner tous les spectacles, mais si vous aviez l'un ou l'autre coup de cœur ou sujet qui vous intéresse,
ça... Non, je peux déjà vous dire qu'on inaugure officiellement le week-end.
J'allais y venir. Ça sera le 6 septembre. J'ai la date en tête.
Voilà. Oui, mais sinon on termine avec un magnifique spectacle. Ce sont les Soldats en Suisse. D'ailleurs, les deux derniers spectacles sont des Soldats en Suisse, des spectacles français. Le dernier, c'est une création de Joël Pommera. C'est un artiste fabuleux. Son spectacle s'appelle La Réunification des deux Corées. C'est un spectacle qui fait salle comble partout en France. Et je fais un peu publicité parce qu'il faut vraiment découvrir cet artiste et venir voir. La Réunification des deux Corées, c'est une métaphore. On ne parle pas de politique, mais plutôt de relations humaines. Et puis le spectacle précédent aussi, qui est mis en scène par Christian Eck et Valérie Le Sort, qui avait ouvert la saison dernière avec un fabuleux 20 000 lieues sous les mers, reviennent avec leur dernière création qui s'appelle Les Sœurs Hilton. Ce sont aussi les Soldats en Suisse, donc il faut profiter. C'est un spectacle qui retrace la vie de sœurs siamoises qui ont vécu au siècle dernier dans l'Angleterre du début du XXe siècle, qui ont un parcours sidérant. On a aussi Sorcière, une comédie musicale qui a été créée.
Ça, c'est à la toute fin du mois d'août, hein, c'est bientôt.
Voilà, c'est complet. Alors, les deux
le
dates
musical
sont complètes.
Qui a pas mal tourné en Suisse romande. D'ailleurs, à propos de tournée, je me posais une question. Mm-hmm. Quand on bosse que l'été, ça doit être compliqué parce qu'il y a aussi des grands spectacles qui viennent de France, vous en avez cité. On est toujours dans les dates de tournée habituelles des pièces de théâtre ou
il faut toujours jouer
un peu avec eux?
Voilà, oui, non, pas toujours. C'est parfois un vrai casse-tête. Hein, ce théâtre d'été, on n'a pas les mêmes spectacles.
Ils vont tous à Avignon.
Voilà, ils vont tous à Avignon. Il y a certains qui font des tournées l'été, mais c'est assez rare. Et puis,
il reste le printemps et l'automne, quoi, aussi pour caser.
Oui, mais l'automne aussi, il démarre un peu plus tard. Il démarre certains à mi-septembre ou même à fin septembre. Donc il faut essayer de les avoir avant, il faut les attirer.
Il y a des grandes vedettes qui sont venues dans cette salle. J'ai vu que Brel était venu chanter, je l'ignorais, j'ai vu ça sur internet. Vous avez des gens qui arrivent là, des grands comédiens actuels, et puis qui regardent cette salle, puis qui se disent mais où est-ce que je suis, et puis qui entrent dans la salle et puis qui font waouh.
Ah, on a que ça. Hein.
C'est vrai.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit reportage de chaque fois de la réaction, cet étonnement quand les personnes se retrouvent sur scène dans cette cathédrale de bois, on va dire. C'est vrai, c'est assez bluffant. C'est un théâtre qui ressemble à aucun autre. Moi-même, pour avoir aussi beaucoup tourné en France, j'ai fait des tournées de plusieurs mois avec aussi des stars françaises. Et on allait de théâtre en théâtre, parce qu'il y a beaucoup de grandes salles hein, dans la France, dans tout le territoire français. mais jamais, jamais on est arrivé dans un théâtre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une dimension tout d'un coup hors norme quand on est... Il faut que je vous emmène dans les loges tout à l'heure. Quand on arrive dans ces loges, et là tout d'un coup on comprend. On dit « Ah oui, d'accord ». Donc on n'aura pas le confort habituel auquel on est habitué, mais on lui pardonne à ce théâtre parce qu'il en impose, hein, parce que voilà, il est d'un autre temps et on fait avec et on est subjugué.
Bon, c'est soit je suis dans la loge, soit les kilos et kilos de fleurs qui me sont destinées sont dans la loge, mais on peut pas y être les deux en même temps, quoi, parce qu'elles sont petites, c'est ça. Hein.
Voilà, non, il y a deux plus grandes loges quand même.
Pour les têtes d'affiche. Bon, bah, merci à vous, Anne Morel. Je disais qu'on allait évoquer l'inauguration de ce nouvel écrin, enfin, en tout cas, de ce qui a été fait avec les travaux. On est là aussi sur la partie cantine, hein, qui était une bâche avant, une tente, qui est aujourd'hui en dur, solide. Bah, tout ça, ça sera le 6 septembre avec conseillère d'État, bien sûr, mais conseillère fédérale aussi.
Oui, absolument. C'est un grand moment et on est raccord avec l'histoire du théâtre, puisque aussi, dès sa création, le conseil fédéral venait parfois incorporer, assister à l'ouverture de saison. Donc, on est très heureux de,
voilà, cette... Hans-Peter Tschudi, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, lui, c'était les années 60, c'est beaucoup plus tard,
oui.
Qui a probablement, donc, selon vous, créé cette phrase, cette appellation de grange sublime. Il disait aussi, c'est la plus belle salle de Suisse. Hein. Il n'était pas vaudois, lui, il n'était pas d'ici. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'incroyable avec cette maison. Et puis, l'inauguration, bah, c'est quelques discours, bien sûr, mais c'est aussi une fête populaire que vous avez voulu autour.
Oui, absolument. On accueille un spectacle de nouveau cirque. Donc, voilà, tout public, sans parole, par le Galactic Ensemble. Ça s'appelle Optraken. La soirée sera suivie d'un bal populaire. On pourra danser dans le pavillon avec le bal de l'Orchestre Jaune. Et puis, l'après-midi, il y aura la fanfare. On pourra visiter le théâtre sur inscription. Un verre de l'amitié sera servi au public. Et le lendemain, le dimanche 7, on retrouvera à l'affiche le cirque. Mais à partir de 11h, il y aura possibilité de manger un brunch au théâtre, de faire une balade qui partira de Mézières et qui reviendra à Mézières en collaboration avec l'Office du tourisme de Moudon.
Il y aura... Lieu de vie, en somme. Plein de trucs.
Mais oui, tout à fait. Il y aura un spectacle pour la petite enfance en plein air, des activités créatives pour les enfants.
Bon, le 6 septembre pour cette journée particulière. Et puis, jusqu'au début du mois d'octobre pour les spectacles qui restent sur cette saison 2025. Tiens, voilà un théâtre qui a une saison sur une seule année. Hein.
Oui, tout à fait. Il est à cheval sur deux saisons.
Voilà, à cheval sur deux saisons, mais sur une seule année. Donc, la saison 2025, la vôtre. Merci à vous, Ariane Moret.
Merci beaucoup.